Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le vendredi 17 novembre 2006, l'Académie des inscriptions et belles-lettres organisait un colloque en hommage à Jean Filioza autour du thème « Sciences et médecine en Asie ». Jean Filioza a imprimé une nouvelle direction aux études indiennes par son œuvre scientifique et ses différentes activités au sein des institutions auxquelles il a appartenu. Il entra à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1966. Il fut membre de la Société asiatique dont il fut président. Il enseigna au Collège de France. Il fonda l'Institut français de Pondichéry en 1955 et dirigea l'École française d'Extrême-Orient de 1956 à 1977. Lors de cette journée d'études de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le secrétaire perpétuel Jean Leclan introduisit cette séance en hommage à ce grand indianiste, à la fois médecin et historien des sciences, à l'esprit humaniste et encyclopédique. Pierre-Sylvain Filioza, son fils, membre de l'Académie, a ouvert le colloque avec la première communication consacrée à son père sur le thème « Jean Filioza, médecin et historien des sciences ». Retrouvons-les en grande salle des séances le 17 novembre 2006.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs, ce n'est pas sans émotion que je viens parler aujourd'hui du savant qu'a été mon père. Ce n'est pas non plus sans difficulté. Comment parler d'un savant que l'on honore aujourd'hui dans l'occasion d'une cérémonie si vous avez été un être aussi familier qu'un père l'est pour ses enfants? Comment parcourir la distance entre l'image qu'il donnait à ses enfants, à ses proches, à ses amis, et l'image que beaucoup d'entre vous connaissent bien, celle d'un esprit exceptionnel unissant humanisme et science, d'un maître en orientalisme, d'un administrateur et d'un médecin empreint d'humanité. Pour moi, aujourd'hui, c'est le souvenir qui s'impose, autant que l'œuvre. Son œuvre est écrite et bien connue de beaucoup, et sera souvent évoqué aujourd'hui. Je me permettrai donc de me référer principalement à l'héritage oral que j'ai eu la chance de recevoir. J'ai retenu sa passion pour tout sujet d'histoire des sciences. Sa curiosité était universelle, mais il avait un attachement fortement marqué pour cette discipline. Elle était pour lui beaucoup plus qu'un exercice d'érudition historique. Il y voyait un terrain privilégié d'enquête méthodologique. Bien plus, il lui donnait la première place dans une conception globale d'une science de l'homme dans son environnement culturel et naturel. Il m'est donc apparu approprié, à l'occasion de son centenaire, de parler d'histoire des sciences et de la médecine, car c'était bien s'inscrire dans sa ligne de pensée. Il a été avant tout un scientifique et il revendiquait ce titre. Il n'aimait pas beaucoup qu'on l'appelle un grand savant. Né le 4 novembre 1906 dans une famille de médecins, il fait des études de médecine et dans le même temps des études d'orientalisme. Il avait rencontré Sylvain Lévy. Mon père a certainement subi le charisme du plus séducteur de tous les orientalistes. Il a tout d'abord été orienté par lui. Il apprend les langues du bouddhisme, sanskrit, pali, tibétain, il s'initie au chinois. Sylvain Lévy avait passionnément cherché à expliquer la civilisation indienne par les sources extérieures à l'Inde. Dans l'Antiquité grecque et romaine, en Asie centrale, en Chine, dans tout l'Extrême-Orient. Il forma son élève dans cette ligne, mais l'invita aussi à étudier les sources proprement indiennes. Le domaine dravidien était le plus négligé. Il s'y initia avec Jean Filioza s'y initia avec Jules Bloch et un jeune étudiant, Léon Saint-Jean, originaire de Caricale, profondément engagé dans le mouvement d'indépendance de l'Inde et qui faisait des études de droit à Paris dans les années 30. Auprès de ce dernier, il aborda les beautés de la vieille littérature tamoule et conçut l'idée de la décolonisation de ce qui était encore les établissements français de l'Inde afin d'inaugurer une nouvelle ère de coopération scientifique entre la France et l'Inde. Après une thèse de médecine, l'œil directeur et un ouvrage sur le strabisme, il exerce l'ophtalmologie de 1930 à 1947, y compris durant les années de guerre où, médecin capitaine, prisonnier, il continue à exercer dans des conditions éminemment difficiles. Et dans le même temps, il prépare une thèse d'histoire de la médecine indienne. En 1947, il fait son premier voyage en Inde, quelques semaines après l'accession du pays à l'indépendance. C'est à partir de cette année marquante qu'il se consacre entièrement à l'indianisme, à la mise en place et à l'administration d'une coopération scientifique entre la France, de la France avec l'Inde et avec tout l'Extrême-Orient. Il cède son cabinet d'ophtalmologie dans la banlieue parisienne, mais il n'a jamais abandonné totalement la médecine. Au cours de ses voyages, il a souvent emporté une boîte de verre et quelques médicaments. Au Cambodge, au cours d'explorations archéologiques dans des villages reculés, on l'a vu ouvrir en plein air une consultation d'ophtalmologie. Il avait toujours dans ses poches des pommades ophtalmiques et, à l'occasion, soignait hommes et animaux. Il ne pouvait pas supporter la vue d'un cheval dont les yeux coulaient. Il a sauvé la vue d'amis, de collègues, en diagnostiquant une affection grave, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas conscience de la gravité du mal. Même dans ses multiples activités d'orientaliste, il apportait un esprit de médecin. Médecin au diagnostic sûr, il avait une sûreté étonnante dans son appréciation d'un travail scientifique, un talent, un flair particulier pour trouver une erreur. Il ne se contentait pas de la relever et de la redresser ponctuellement. Il décelait vite la faute méthodologique et proposait une nouvelle direction de recherche. C'était l'expérience du praticien de la médecine, attentif aux signes extérieurs du mal, qui y lit la cause profonde et propose la thérapeutique appropriée. Je me suis souvent étonné de le voir s'attarder à examiner et commenter un ouvrage de spiritualité nébuleuse ou de théorie fantastique sur les religions de l'Inde. Tout aussi souvent, sa conversation roulait sur la description de maladies et il y prenait un plaisir visible. Pour lui, ce n'était pas perdre un temps précieux. La connaissance, la compréhension profonde des maladies de la recherche dans les matières d'érudition était aussi importante que la nosologie pour le médecin. Jean Filioza a œuvré dans toutes les branches de l'orientalisme. L'histoire de la médecine l'a préoccupé toute son existence, de son premier article sur la concentration oculaire dans le yoga de 1931 et son maître ouvrage sur la doctrine classique de la médecine indienne, ses origines et ses parallèles grecs de 1949, jusqu'au Yoga Shataka, publié à titre posthume. 50 années au cours desquelles s'échelonne l'étude de textes témoignant de l'expansion des connaissances scientifiques indiennes en Asie, une remarquable étude sur les relations et l'antagonisme de la magie et de la médecine de 1943, et un grand nombre d'articles sur des conceptions philosophiques à fondement médical, la place de l'Ayurveda dans la pratique médicale et la culture de l'Inde traditionnelle. Il s'est intéressé aussi de près à l'astronomie indienne. avec le même souci d'en chercher les origines et les parallèles. Les connaissances scientifiques de l'Inde ancienne dépassent toujours l'empirisme. On les voit situées dans des systèmes philosophiques coordonnés à visée globalisante. L'acquisition de nouvelles connaissances exactes entraîne tout de suite une reconstruction du système. C'est ainsi que dans l'Inde ancienne, il n'y avait pas moins de 5 systèmes astronomiques, appelés Siddhanta, dont Varahamihira a donné un tableau célèbre au début du VIe siècle. Le Surya Siddhanta, qui a pris le pas sur les autres dans l'usage au cours de l'histoire, a eu aussi son évolution interne. Cet édifice en perpétuelle reconstruction a toujours été tributaire du progrès des observations, des échanges avec d'autres civilisations. Sur la question des influences culturelles dans les disciplines scientifiques, Jean Filioza prenait souvent une position bien tranchée. Là où beaucoup se contentent de voir une intrusion de croyances, de visions mythiques dans un contenu scientifique, il cherchait une pensée rationnelle. Il rejetait l'idée de contact, de relation d'influence mutuelle entre plusieurs types de conduite de pensée, un esprit scientifique et un relâchement de la raison dans l'acceptation de croyances religieuses. Les deux attitudes ont existé en Inde. Pour Jean Filioza, elles ne se mêlaient pas. Et il y avait une réelle création scientifique pure dont il a cherché inlassablement à montrer l'étendue et l'indépendance. Pour prendre un exemple en matière d'astronomie, le Surya Siddhanta, dans sa périodisation du temps, fondée sur la base des révolutions observées des astres, introduit une conception de 4 âges appelée Yuga. L'ensemble des 4 Yugas dure 4 320 000 années solaires humaines, qui sont dites être 12 000 années divines, formées chacune de 360 jours dits divins, un jour divin étant égal à une année humaine. Cet ensemble est divisé en 4 parties de durée décroissante, chacune ayant une durée double de la suivante. La dernière, où nous vivons, appelée Kali Yuga, est donc un dixième de la grande durée, soit 432 000 années. Il n'y a pas d'observation astronomique qui permette d'arriver à une période de cette longueur et correspondant à une réalité du mouvement des corps célestes. Ces 4 yugas sont aussi le concept de base du temps de la mythologie hindoue. Jean Filioza se refusait à expliquer la présence constante de ce concept des 4 yugas dans les systèmes astronomiques scientifiques par un emprunt au domaine mythologique. Il constatait que le nombre 432 000 fait partie d'une suite de nombres remarquables. Le quart en est 10 800. 10 800 est le nombre de muhurta dans l'année. Le muhurta, c'est une unité de base de 48 minutes. Et 10 800 est un multiple de 108. 108 est 4 fois 27. 27 est le nombre des nakshatras, les constellations qui servent de repère dans l'observation des levées d'astres. Il inclinait à reconnaître l'origine du système des yugas dans l'usage de ces repères et une construction arithmétique simple à partir de nombres entiers. Pour lui, c'était cette donnée arithmétique qui avait pénétré tous les systèmes mythologiques. On sait l'importance du nombre 108 dans la culture indienne. Dans un article révélateur, il en a poursuivi la trace dans la pensée qui a présidé à la conception architecturale d'un des plus grands monuments du monde, le Phnom Bakeng au Cambodge. Dans toutes ses études, Jean Filioza se souciait de situer les connaissances positives dans le cadre de la culture générale des auteurs qui les exposaient. Il allait encore plus loin, car sa pensée méthodologique culmine dans l'idée d'une écologie historique. Le terme est, je crois, de son invention. Expliquer le fait observé, non seulement dans le cadre culturel, mais aussi dans le cadre naturel où ces auteurs vivent et dont ils sont étroitement dépendants. Un article intitulé « Écologie historique en Inde du Sud, le pays des Kallars » est une application modèle de ce programme. Les Kallars constituent de nos jours une communauté du sud de l'Inde qui s'est définie par le passé par la fonction de voleur. Jean Filioza situe la valeur de cette définition simpliste en recourant aux légendes de fondation à l'œuvre d'un mystique, Tirumangir Alvar, qui, au IXe siècle, appartenait à ce groupe social et qui a chanté sa dévotion au dieu Vishnu en vieux tamoul. Il met en évidence la représentation que le poète avait de la nature du pays où il vivait. Il poursuit l'examen du paysage naturel à travers des récits de missionnaires du XVIIIe siècle. Il constate une déforestation massive commencée au XIXe siècle et achevée récemment, avec conversion de la communauté à un autre mode de vie, en majorité d'agriculteurs sur une zone aride. Sur ce thème de l'écologie historique, il a organisé un séminaire mémorable au Collège de France, où il réunit tout l'orientalisme français et des collègues scientifiques. Il a fondé, dès 1955, et dirigé à Pondichéry, un institut français de recherche qui comportait un étage de chercheurs dans diverses branches de l'écologie et un étage de chercheurs dans diverses branches de l'indianisme. Jean Filioza a laissé ainsi une œuvre progressiste en histoire des sciences, intégrée à une saisie globale dans l'environnement culturel et naturel, a laissé un modèle méthodologique et, ce dont nous lui sommes particulièrement redevables, il nous a donné une institution efficace faite pour une ligne de recherche d'un très grand avenir.
Vous venez d'entendre la communication de Pierre-Sylvain Filioza, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors du colloque organisé par l'Académie en hommage à son père, Jean Filioza, autour du thème « Science et médecine en Asie », le 17 novembre 2006.